Les promesses de Dieu pour le futur, c'est qu'est-ce qu'il y a de plus important? Parce que si Dieu ne nous promettait rien pour le futur, on serait même pas ici. Parce que Dieu nous promet qu'il va revenir nous chercher par Jésus. Il nous promet la vie éternelle, nouveau ciel, nouvelle terre. Et s'il n'y avait pas ces promesses-là de la résurrection de notre corps mortel, que ça vaudrait la peine de suivre Jésus. Donc, comme disait l'apôtre Paul, si Christ n'est pas ressuscité, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Profitons de la vie autant que possible, parce que ça, c'est court. C'est vrai que c'est court sur terre, mais l'éternité est vraiment longue. Donc, je l'écris en gros parce que c'est gros. Comme diraient les jeunes, c'est big. Maintenant, c'est quoi le futur? Le futur, c'est tout ce qui n'est pas encore arrivé. Tout ce qui nous inquiète, tout ce qui nous angoisse, tout ce qui nous interroge, ce sur quoi on se penche. Le futur, c'est demain, c'est l'an prochain, c'est dans 10 ans. C'est le retour de Jésus, l'établissement de son royaume. Le futur, c'est la nouvelle terre que Dieu va venir, sur laquelle on va habiter, les nouveaux cieux aussi dans lesquels on va habiter, qui s'en viennent. Et qu'est-ce qui fait qu'une promesse a de la valeur? Parce qu'on peut en faire bien des promesses. Qu'est-ce qui fait qu'une promesse a de la valeur? Dans le fond, c'est il y a deux choses. La première, c'est que celui qui fait la promesse est digne de confiance. On a chanté tout à l'heure, « Dieu fidèle, tu ne changes pas. » Dieu fidèle, tu ne changes pas. Donc, ce Dieu-là qui a fait ses promesses ne change pas. Il y a des promesses dans l'Ancien Testament qui se sont accomplies. Et ce Dieu-là ne change pas. Deuxième chose, c'est que la personne qui fait la promesse, en plus d'être digne de confiance, elle doit avoir la puissance de réaliser ses promesses. Je peux vous faire plein de promesses, mais si je n'ai pas la puissance de les réaliser, ça ne vaut rien. Si vous voulez, on va prier avant d'aller plus loin dans notre message. Notre Dieu, merci pour ce temps que tu nous donnes ce matin. Et ta parole nous dit que tu es le Dieu qui ne ment pas. Et quand tu fais des promesses, c'est solide comme du roc, même plus encore. Parce que le roc peut s'effriter. Notre Dieu, on te prie ce matin que ton esprit soit dispensé avec abondance. Et que moi en premier et tout le monde aussi, on soit touché, Seigneur, par les versets bibliques qu'on va lire, par les enseignements. Et on te prie, Seigneur, de changer nos vies et surtout de tourner nos yeux vers Jésus, qui est le seul qui est digne de confiance. C'est dans son nom qu'on te prie. Amen. Donc, digne de confiance. Une petite histoire. Mon père avait un terrain sur le bord d'une rivière, une super belle rivière, la rivière Capshaw en Gaspésie. Et il y a un monsieur qui a demandé, « Tu me vendrais-tu ton terrain? Je vais me construire un chalet. » Mon père, il n'en avait plus besoin là, à ce moment-là, ça fait qu'il a vendu le terrain. Sauf qu'ils n'ont pas fait de papier, ils n'ont pas été chez le notaire. Bon, moi je ne savais pas. Là. Et le monsieur a construit son chalet, et de fil en aiguille, il n'avait pas besoin d'emprunter, il semble qu'il avait assez d'argent, il a construit une maison. Et donc, vu qu'il n'a pas hypothéqué, il n'a pas eu besoin de faire de contrat, tout ça. Et les années ont passé, et moi j'ai étudié pour être notaire, hein. Et quand j'ai terminé mes études, mon père a dit, « Ah oui, le gars-là, là, j'ai vendu un terrain. On pourrait-tu régler ça, faire des papiers? »« Hein? T'as pas fait ça encore? »« Oui, envoie-moi ton gars, puis on va faire ça. » Et quand on a signé le contrat, là, mon père, lui, puis moi, j'ai demandé au gars, « Mais pourquoi t'as pas fait de contrat avant? C'est dangereux, ça. Mon père aurait pu mourir, aurait pu changer d'idée. » Et le gars, il m'a regardé dans les yeux, il a dit, « Je savais à qui j'avais affaire. » Et ça m'a rassuré sur mon père. Mon père était un homme de parole. Et à l'époque, il disait une parole vaut un papier. Mais c'était un contrat sur la gueule, comme il disait. Mais c'était valable entre eux. OK? Et c'est un peu ça que je veux ramener Dieu. Dieu est digne de confiance et on sait à qui on a affaire. C'est sûr, je ne veux pas comparer Dieu à mon père. Mon père était un homme comme moi, pécheur et tout ça. Mais il y avait une chose qui le caractérisait, c'est qu'il y avait juste une parole. Et c'était connu dans son entourage. Dieu est le même. Dieu a juste une parole. Et encore plus que mon père, ça ne se compare pas. Donc, pour qu'on puisse croire qu'une promesse puisse être tenue, il faut avoir confiance en celui qui l'a fait. Et Dieu a prouvé à de multiples reprises qu'il disait la vérité, qu'est-ce qu'il disait, ça allait s'accomplir. Et combien d'exemples dans l'Ancien Testament de prophéties qui se sont accomplies? Quelques-unes. Dans Michée, chapitre 5, verset 2, nous lisons que le Messie allait naître à Bethléem. Bethléem est une toute petite ville en Israël. Et c'est celle-là qui avait été choisie, et c'est là que Jésus est né. Aussi, dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe, chapitre 7, verset 14, il est écrit que la Vierge deviendra enceinte. Imaginez-vous quand Ésaïe a écrit ça. Ça venait pas de lui certain. Une Vierge devient enceinte. Y a-t-il quoi de plus impossible que ça? Impossible, vraiment impossible. C'est arrivé. Marie est devenue enceinte. Et dans Ésaïe 53, qui a été écrit, Ésaïe 700 ou 800 ans avant la venue de Jésus, on parle que Jésus allait venir mourir sur la croix avec des détails là, très, très précis sur la venue de Jésus et sa mort sur la croix. Donc, Dieu a prouvé, et ça, j'ai cité trois prophéties. Il y en a des dizaines qui se sont accomplies en Jésus, et il y en a d'autres qui sont à venir. Donc, les promesses de Dieu qui se sont accomplies, ça nous montre qui il est, qui il est fiable, qui peut les accomplir, et les promesses pour le futur, dans le fond, c'est réel. Donc, le passé est garant du futur. On va lire un verset, trois versets. Dans Luc, chapitre 18, verset 31-33, c'est Jésus qui parlait à ses disciples. Donc, Jésus a pris les douze à part et leur dit, « Voici, nous montons à Jérusalem et tout, j'ai souligné, ce que les prophètes ont écrit au sujet du Fils de l'homme va s'accomplir. » Donc, Jésus dit, tout ce que les prophètes ont écrit, là, ça va aller s'accomplir dans quelques jours à Jérusalem. Donc, Jésus faisait référence aux prophètes. Là, il a cité tout ce qui allait arriver qui a été prédit. Verset 32, en effet, il sera remis entre les mains des païens. Pourquoi c'est pas les Juifs? Non, les païens, parce que c'était les Romains qui l'ont tué, finalement. On se moquera de lui, on l'insultera, on crachera sur lui. C'est pas toutes les... condamné à mort, qu'on faisait cracher sur eux. Donc, Jésus est vraiment précis, on crachera sur lui. Et après l'avoir battu à coup de fouet, on le mettra à mort, puis le troisième jour, il ressuscitera. Pas le deuxième jour, ni le quatrième, le troisième jour. Vraiment précis. Et juste le fait qu'il ressuscite, donc c'est miraculeux, un miracle sans bon sens. Donc, tout ce que Jésus dit, tout ce que les prophètes ont dit, ça va arriver, et voici ce qui va arriver. Vraiment digne de confiance. D'autres versets, ici, c'est lorsque Jésus, après qu'il a été ressuscité, il a été enlevé au ciel. Dans Actes, chapitre 1, verset 4, nous lisons, « Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé. » Et qu'est-ce qu'il avait promis? C'est dans l'effusion de l'Esprit. Donc, attendez ça. Car Jean baptisait d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc, c'est une promesse que Jésus leur a faite à ce moment-là. C'est la référence à ce que Dieu avait promis. Ça s'en vient. Il dit « dans peu de jours ». Il prend la peine de le mentionner que ça ne sera pas long. On dit « dans pas long », là. Donc, ça ne sera pas long que ça s'en vient. Et quand Jésus dit qu'elle est ressuscitée, il avait dit « dans trois jours ». Aujourd'hui, c'est arrivé. Dans peu de jours, on sait qu'est-ce qui est arrivé à la Pentecôte. 10 jours après, le Saint-Esprit est arrivé et il y a eu des milliers de conversions. Ensuite, un petit peu plus loin, dans le même chapitre, verset 11, ces deux hommes habillés en blanc qui sont apparus pendant que les disciples regardaient au ciel Jésus s'en allait. Ils ont dit, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Donc ici, il annonçait le retour de Jésus. Une autre promesse ici. Donc ces deux hommes-là étaient des messagers de Dieu qui venaient annoncer que Jésus allait revenir. Et ça va arriver. Donc, résurrection, mort de Jésus est arrivée, résurrection est arrivée, la Pentecôte, l'effusion de l'Esprit est arrivée, le retour du Seigneur. Un jour, on va dire c'est arrivé. Parce qu'on va être tout, ça va être passé. Donc ça va arriver. Et les promesses de Dieu, des fois c'est peu de jours, des fois c'est plus long. Comme son retour, ça fait quand même 2000 ans et ce n'est pas arrivé encore. Donc, pour qu'une promesse ait de la valeur, il faut que celui qui l'a fait soit digne de confiance et aussi qu'il ait la puissance de l'accomplir. Je peux vous faire des promesses, mais si je ne suis pas capable de les accomplir, si je vous dis qu'un homme peut vous dire pour le futur que tout va bien aller, vous avez déjà entendu ça? Monsieur Legault, très bien intentionné, a dit ça va bien aller, ça n'a pas bien été pour tout le monde. Okay? Donc, il était bien intentionné, il voulait bien, je crois qu'il était sincère, mais il n'avait pas la capacité de régler les choses pour que tout aille bien. Mais Dieu nous a créés pour que tout aille bien. C'est pour ça qu'on a une tendance, une propension à dire oui, ça va bien aller, oui, ça va bien aller, parce qu'on a été créés comme ça pour que ça aille bien. C'est comme ça que Dieu nous a fait dans notre ADN. Donc, on a été créés pour vivre dans un lieu parfait, mais un jour, ça va être la réalité. Donc, qu'en est-il de Dieu? Est-ce que Dieu peut respecter ses promesses? Donc, il n'est pas seulement entièrement digne de confiance, mais il est aussi tout puissant. Il a le pouvoir de respecter ses promesses. Et on va regarder quelques versets qui nous parlent de la capacité de Dieu à respecter ses promesses. Dans Ésaïe, chapitre 46, verset 10. Et chaque mot ici, il y a un poids là immense. Dès le commencement, donc Dieu était là au commencement, j'annonce l'avenir et longtemps à l'avance ce qui n'est pas encore. Donc, longtemps à l'avance, qu'est-ce qui n'existe pas de l'annonce, comme la naissance, comme une vierge qui deviendra enceinte. Longtemps à l'avance, ce qui n'est pas encore, ce qui est pratiquement impossible. C'est moi qui dis et mon dessein s'accomplira. Oui, j'exécuterai tout ce que je désire. Vous voyez la puissance qu'il y a là-dedans? Un homme ne pourrait pas dire ça, hein? Mettons que je disais ça, c'est moi qui dis, mon dessein s'accomplira, j'exécuterai tout ce que je désire. Je suis foudroyé comme Hérode a été foudroyé. Non, Dieu capable de le dire est le seul qui peut le dire. Je dis ça, ça va arriver, je vais l'exécuter. Personne ne peut contrecarrer mon plan. C'est ça notre Dieu en qui nous avons mis toute notre confiance. Dans Acte 27, verset 25, c'est dans le contexte où l'apôtre Paul, avec tous les prisonniers qui étaient avec lui dans le bateau, puis les matelots, ça faisait 14 jours qu'il était ballotté, il pensait qu'il allait mourir, mais un ange est apparu à Paul, il lui a dit, « Aie pas peur, tu vas être sauvé, toi et ceux qui sont avec toi. » Et Paul leur a parlé, il leur a dit, « Courage donc, mes amis, j'ai confiance en Dieu, tout se passera comme il me l'a dit. » Tout se passera comme il me l'a dit. Et c'est arrivé. Tout le monde a été sauvé. Il y avait des gros risques, il y en a qui se noient. Tout le monde a été sauvé de la mort. Un autre verset, Romains 4, verset 20-21. Ici, on parle d'Abraham. Lorsque Dieu a dit à Abraham que Sarah aura un fils. Donc, Abraham est tout près de 100 ans. Sarah était autour de 75 ans. Et il a dit, oui, tu vas avoir un enfant. Puis, dans Romains, on dit, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Donc, la promesse de Dieu, pour lui, c'était comme du roc. Verset 21, ayant une pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Et c'est ça que je disais, ce que Dieu promet, il a la puissance de l'accomplir. Quel Dieu! Et je me rappelle d'un missionnaire qui me disait, lui vivait par la foi au niveau financier. Il n'y avait pas de salaire, tout ça. Il vivait par les dons. Et il disait, quand je trouve une promesse de Dieu dans la Bible, que ce soit pour mes besoins financiers ou autre chose, je la mets dans ma poche. C'était comme du cash pour lui. Si Dieu dit, oui, je vais pouvoir tous tes besoins, inquiète-toi pas. C'est comme s'il y avait le magot dans la poche, aucun problème. Donc, il n'en a jamais manqué. Il est encore dans l'œuvre aujourd'hui. Puis, une œuvre fructueuse. Donc, quand j'ai une promesse de Dieu, je la mets dans ma poche, je m'en vais avec ça. Et c'est ça qui est ma confiance. Donc, on a vu que quelqu'un qui fait une promesse doit être digne de confiance, avoir la puissance de la réaliser. Quelles sont les promesses que Dieu nous fait pour notre avenir? Sur cette terre. Après ça, on va regarder pour notre avenir le retour de Jésus. Donc, commençons avec notre avenir sur terre. Quelles sont les promesses que Dieu nous fait? Dieu ne nous dit pas que tout va bien aller. Mais il nous dit qu'il va être avec nous dans l'épreuve. Quand tu traverseras la vallée de l'ombre de la mort, il va être avec moi. on ne craindra aucun mal. Il va être avec nous. Donc, et l'épreuve de la foi, c'est pas quand Jésus répond tout de suite, mais c'est quand il faut attendre. Quelqu'un dit, moi, quand je prie, Dieu répond tout de suite. Ah, de la foi, toi. Mais la foi, c'est quand on prie, puis ça, Dieu répond pas, mais on continue à lui faire confiance. Parce que c'est Dieu qui sait qu'est-ce qu'il doit faire. Et c'est ça, la vraie foi. Un verset que vous connaissez dans Philippiens 4. Bon, promesse de Dieu pour notre futur sur la terre, j'avais oublié de la mettre. Philippiens 4, versets 6 et 7. Et après, je vais vous lire ça après, et ensuite, je vais vous lire un texte que ma fille Marie-Ève a écrit au mois de décembre. Vous savez qu'ils sont éprouvés là, par le cancer de son mari. Et elle citait ce verset-là, je vais vous le lire avant. Donc, ne vous inquiétez de rien. Donc, c'est puis n'ayez pas peur, n'ayez crainte, ne vous inquiétez de rien. Ça revient des dizaines de fois dans la Bible et Dieu a pris la peine de le mettre parce qu'il savait qu'on était porté à s'inquiéter. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose. C'est pas marqué dans la plupart des choses, hein? De toute chose. C'est comme s'il n'y a rien qui mérite qu'on s'inquiète ou qu'on la remette. Oui, on peut s'inquiéter, on va en parler tantôt. Il n'y a rien qui mérite qu'on ne le confie pas à Dieu. Donc, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec action de grâce. On a souvent des supplications, mais pas souvent l'action de grâce. On doit en avoir. Verset 7, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc, c'est pas marqué, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et Dieu répondra tout de suite à vos besoins. Non, c'est marqué que Dieu va garder vos cœurs en Jésus. Et ça dépasse toute intelligence. Que dans l'épreuve, on peut avoir confiance. Comme Jésus, dans la barque qui dormait, il a reproché ses disciples d'avoir eu peur. Pourquoi vous avez eu peur? J'étais avec vous. Ouais, mais tu dormais, Jésus. Et des fois, Jésus peut sembler dormir. On voudrait le réveiller. Hein? Mais il ne dort pas. Il est au courant. C'est tout ce qui se passe. Donc, je vais vous lire le texte que Marie-Ève a écrit, un post sur Facebook en décembre 2022. En passant, juste des petites nouvelles de Mike, là, il va bien. Les traitements pour le cancer semblent fonctionner. Actuellement, il va commencer au mois d'avril le dernier cycle sur 4 de chimiothérapie. Et c'est la première semaine qui est difficile. Il est vraiment à terre quand il commence ça. Ensuite, il remonte tranquillement. Mais le Seigneur les soutient là-dedans. Et Dieu voulant, il va être ici au mois d'août. Donc, les billets d'avion sont déjà achetés pour qu'ils viennent au Québec au mois d'août. Et il devrait enseigner à l'Église ici, là, au mois d'août, le dernier dimanche d'août. Mais ce n'est pas confirmé encore. J'ai écrit en arrière, elle a dit, on va attendre au mois de mai. On va attendre d'avoir passé sa dernière série de traitements pour voir comment ça va aller. Donc, continuez à prier pour eux. Donc, Marie-Ève, elle avait écrit, en parlant de ce texte-là, « Êtes-vous déjà demandé si la peur et l'inquiétude étaient des péchés? » Parce que c'est marqué ici, « Ne vous inquiétez de rien. » Que ces péchés s'inquiétaient. Pour ma part, je suis constamment coincé dans le cycle de la peur et de l'inquiétude et je dois déposer ces choses devant Dieu. Donc, elle s'humilie en disant, pour moi, là, l'inquiétude, là, ça fait partie de ma vie. Hein. Je suis coincé là-dedans, mais je dois le remettre à Dieu. Si je ne le fais pas tous les jours, c'est-à-dire remettre son fardeau à Dieu, je deviens irrité, anxieux et je commence à imaginer les pires scénarios dans ma tête. Vous savez, c'est quoi, hein? Scénario. Je pensais que la peur s'atténuerait une fois que Mike serait sorti de l'hôpital, parce qu'il a été un mois à l'hôpital pour les traitements initiaux. Mais ce n'est pas le cas. Je m'inquiète encore de l'avenir, des rechutes, de le voir souffrir, des effets de tout ça sur les enfants, etc. Cette phrase « N'ayez pas peur » ou « Ne vous inquiétez de rien » est souvent présente dans la Bible. Si souvent répété sous différentes formes, alors on doit se demander, est-ce que c'est un commandement? Nous sommes portés naturellement à nous inquiéter, mais la Bible nous dit, quoi faire lorsque cela se produit? Priez. Dites-le à Dieu. Le texte ne dit pas qu'il va régler le problème, mais il dit que nous recevrons la paix parce que nous déposons nos fardeaux à ses pieds et nous acceptons que c'est lui qui connaît la meilleure voie à suivre. Donc, lorsqu'on lui dépose nos fardeaux, on accepte. Seigneur, moi, je ne comprends rien. Mais c'est toi qui le sais. C'est un peu comme la semaine dernière avec Louis-Philippe, le peuple qui était comme Israël qui était attaqué par des armées nombreuses. Nous ne savons quoi faire, mais nous nous attendons à toi. On frappe un mur, mais on s'attend à Jésus. Et elle dit, on se confie à Dieu, même si qu'est-ce qu'il nous montre actuellement, ça ne semble pas être la meilleure solution, mais Dieu sait qu'est-ce qu'il fait. Qu'est-ce que cela signifie pratiquement pour nous? C'est, dans le fond, qu'il ne faut pas être gouverné par la peur. On peut avoir peur, mais il ne faut pas que ce soit ça qui nous gouverne. C'est parfaitement humain d'avoir des réactions de peur et que des choses nous inquiètent, mais c'est la façon dont nous réagissons à cette peur qui est vraiment importante. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec la peur? Est-ce qu'on la garde pour nous, on s'inquiète, on s'angoisse, ou on la confie au Seigneur et on lui demande sa paix? Commençons-nous à être obsédés et tentons-nous de contrôler la situation, ou allons-nous devant Dieu et lui demandons-nous de conduire ses plans et ses desseins? Plus nous tombons dans les bras de Dieu et avons confiance en sa capacité à prendre soin de nous, plus nous connaîtrons la paix, quelles que soient les circonstances. Donc, la paix de Dieu. Donc, ça, c'est pour notre avenir immédiat, demain, dans un an, dans deux ans, nos peurs qu'on a. Confions-nous au Seigneur. Donc, c'est pas pour rien que Dieu a fait des promesses dans la Bible. Il sait qu'on en a besoin, il sait qu'on est peureux, il sait qu'on est faible, on a besoin de ses promesses. On a besoin d'être assuré. Donc, on a parlé des promesses de Dieu pour notre avenir immédiat. Maintenant, les promesses de Dieu pour son retour et l'établissement de son royaume. Dieu va revenir, Jésus va revenir. Et quand je vous parle de ça, quand j'ai dit ça, le retour de Jésus, le royaume de Dieu, qu'est-ce que ça a fait en dedans de vous? Qu'est-ce que ça a fait? Non, pas tout de suite, je ne suis pas prêt. Et quand je n'étais pas chrétien, j'avais peur de la fin du monde. J'avais écouté une prédication de Billy Graham qui disait, il parlait sur Matthieu 24, il parlait de la venue de Jésus, les derniers temps et tout ça. Et ça m'avait angoissé. J'avais jamais été angoissé de même. De savoir que, c'est grave ce qui se passe, je peux plus mourir puis vivre ça, aller en enfer et tout ça. Donc, est-ce que quand j'ai mis ça, promesse de Dieu pour son retour, est-ce que ça a fait en dedans? Oh non, je ne veux pas en entendre parler de ça. Je ne suis pas prêt, puis je ne veux pas en entendre parler. Puis la vie sur terre est plus importante, pensons pas au retour. On dit des fois, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Donc les gens peuvent dire, profiter de la vie sur terre, en profiter au maximum, parce que l'éternité, c'est incertain. Et c'est pas vrai. Hein? Pas vrai. Parce que la vie sur terre, c'est rien comparé à ce qu'il va y avoir au ciel. Donc, un tien vaut mieux que Dieu, tu l'auras. Ça vaut des fois quand on nous donne un cadeau, n'importe quoi sur terre, mais ça ne s'applique pas à la vie chrétienne. Donc, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui n'est pas vraiment important. Oui, il est important parce que ça a une conséquence éternelle, mais c'est pas ça qui compte. Ou peut-être que vous dites, on parle du retour de Jésus, mais ça fait tellement longtemps qu'on en parle. Ça fait 2000 ans qu'il est venu, puis il vient pas. Puis vous êtes tanné d'en entendre parler. Je dis, il ne viendra pas de toute façon. Ou bien, vous dites, waouh, le retour du Seigneur, amen, j'ai hâte qu'il vienne, que ton règne vienne. Et c'est ça que j'aimerais que ça ait fait dans le cœur de vous tous. Et ça montre où est votre trésor. Si votre trésor est sur la terre, vous n'avez pas hâte que Jésus revienne. Si votre trésor est au ciel, votre cœur est au ciel, vous avez hâte qu'il revienne. Mais une promesse de Dieu peut prendre du temps à se réaliser. Comme quand Adam et Ève ont péché, Dieu a promis qu'il leur enverrait un sauveur. Ça a pris combien de temps avant que le sauveur vienne? J'ai fouillé un peu. John MacArthur dit que le paradis terrestre aurait existé 2090 ans avant Jésus. Donc, ça a pris plus que 2000 ans avant que le sauveur arrive. Donc, ce miracle, c'est arrivé. Et aujourd'hui, ça fait plus de 2000 ans qu'il est venu. Mais je ne veux pas faire de calcul pour vous dire là, qu'il reste 90 ans. N'ayez pas peur. Donc, l'apôtre Pierre disait que Dieu ne tarde pas dans le retour, dans l'accomplissement de ce qu'il a promis, mais il veut que tous ceux destinés à la vie éternelle soient sauvés. Donc, il retarde, mais pour une bonne raison. Et nous irons rejoindre notre Seigneur, soit par la mort physique, beaucoup de chrétiens au travers des siècles sont allés rejoindre leur Sauveur par la mort physique, ou ceux qui seront vivant lors de l'enlèvement, par l'enlèvement, nous serons transformés et amenés vers Jésus. Parlons de la mort physique. Les gens se demandent parfois, « Ouais, mais quand on meurt, on s'en va où? On est-tu dans les limbes? On est-tu dans le papa? » D'après la parole de Dieu, on va être en présence de Jésus. Souvenons-nous du larron. Le larron est sur la croix, il a dit, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton royaume. » Donc, il a reconnu Jésus comme un roi, il s'est reconnu comme pécheur. Et Jésus lui a dit, « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Donc, aujourd'hui même. Et on peut regarder un autre verset, deux, trois versets dans Philippiens 1, versets 21 à 23. « Car pour moi, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. » Donc, il était tellement collé à Jésus. C'était ça, sa vie. Et si je meurs, tant mieux, parce que Paul avait beaucoup de souffrance. Il était vraiment, vraiment dur pour lui. Mais est-ce utile pour mon œuvre que je vive dans la chair? Que dois-je préférer? Je ne le sais. Parce qu'il dit, si je reste, je suis encore utile là, pour l'œuvre du Seigneur sur la terre. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Donc, m'en aller, ça veut dire mourir et être avec Christ. Donc, Paul savait que s'il mourait, il s'en allait avec Jésus. Et je me rappelle d'un ami qui avait un cancer, il avait 45 ans, et un chrétien, et c'était comme décompté. Il dit, je suis comme content, c'est un peu ma pré-retraite. Il dit, je m'en vais avec Jésus. Mais il dit, je me sens égoïste à cause de ma femme et mes enfants. Il y avait des jeunes enfants. Il était comme tiraillé, un peu comme l'apôtre Paul. Tiraillé. Il est décédé, il est avec Jésus maintenant. Et, petite parenthèse, lorsqu'on va rejoindre Jésus à notre mort, on n'a pas encore notre nouveau corps incorruptible. Cette transformation-là va se faire lorsque Jésus va venir pour l'enlèvement. Je vais voir Jésus lorsque je vais décéder. Maintenant, on parlait de la mort physique, maintenant parlons de l'enlèvement. À 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 14 et 15, nous lisons. OK, parce que dans le contexte, c'est que il y a des. À l'époque, vu que les gens attendaient Jésus là, de leur époque, et parce que, vous voyez, Jésus mort, ressuscité trois jours après, Jésus enlevé, l'envoi de l'Esprit 10 jours après, donc il avait dit qu'il reviendrait. Donc les gens l'attendaient, là, c'était comme imminent. Et c'est pour ça que. Puis il y a des chrétiens qui étaient morts. Et les chrétiens de Thessalonique disaient, « Ouais, mais ceux qui sont morts, ils ne seront pas enlevés, qu'est-ce qui se passe? » Et là, Paul répondait à la question pour ceux qui sont morts. Donc, verset 14, « Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. N'ayez pas peur, ceux qui sont morts, ils vont revenir à la vie. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. » Donc, supposément, si dans 20 ans, moi je suis mort, et il y en a ici qui sont encore vivants, Jésus revient. Vous ne partirez pas avant moi. Je vais ressusciter, vous allez m'attendre. Après ça, on va être avec tout le monde ensemble. Donc, des fois, on dit, j'aimerais ça vivre l'enlèvement de mon vivant. Mais on va tous vivre l'enlèvement, même si on est mort. Sauf qu'on va avoir connu la mort, on va avoir connu une autre dimension que les autres n'auront pas connue. Et là, OK, on va continuer encore ce verset-là qui en dit encore un peu plus long. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, parce que Paul pensait que l'enlèvement aurait lieu lors de son vivant. Nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. Donc, il n'y aura plus aucune différence. On va tous être transformés, on va tous être enlevés vers Jésus, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Et à la fin, toujours avec le Seigneur. Amen. Ça, là, ça réchauffe mon cœur. Toujours avec lui. Et cet événement-là va avoir lieu à un jour précis de l'histoire de l'humanité, à une date, à une heure, une seconde. Et je connais quelqu'un qui connaît la date, l'heure de l'enlèvement. C'est Dieu. C'est Dieu. Et le compte à rebours est commencé. Comme les secondes... Ça va à l'envers, une minute. Et plus on avance, plus on est près du retour de Jésus. C'est vraiment imminent. Et Dieu connaît la date. Et lors de cet enlèvement-là, on va être transformé. Donc, c'est une belle promesse, parce qu'être enlevé comme on est là, avec notre vieux corps, c'est pas trop trippant. Nous lisons dans 1 Corinthiens, chapitre 15, « Voici, je vais vous révéler un mystère. Nous ne passerons pas tous par la mort, mais nous serons tous transformés. En un instant, en un clin d'œil, au son de la trompette dernière, référence un peu à l'Apocalypse ici, trompette dernière, car lorsque cette trompette retentira, les morts ressusciteront. » Ah, encore là, les morts vont ressusciter, vous voyez, hein? « Les morts ressusciteront pour être désormais incorruptibles. » Wow! Tandis que nous, nous serons changés, ceux qui seront vivants sur terre. En effet, ce corps corruptible doit revêtir l'incorruptibilité. Ce corps mortel doit revêtir l'immortalité. Incorruptible. C'est quoi un corps incorruptible? Verset 42. « Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. » Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Donc, notre corps, il s'améliore, mettons, jusqu'à 30 ans, puis après 30 ans, il va en descendant, jusqu'à ce que mort s'en suive. Puis, on peut être infirme, on peut être malade, on peut être en chaise roulante, mais on va ressusciter plein de force. Plein de force. Ensuite, semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. On va avoir un nouveau corps. Ça va être un corps quand même. Hein? On ne sera pas désincarné. Ça va être un corps spirituel comme Jésus avait, mais qui va être visible. Donc, il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Incorruptible. Donc, Jésus a dit qu'il allait ressusciter. Est-ce que c'est arrivé? Oui. Jésus a dit que nous allions ressusciter. Est-ce que ça va arriver? La même personne qui a fait cette promesse-là. Donc, on peut lui faire confiance. Dans 1 Jean, chapitre 3, verset 2, nous lisons, « Nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. » Semblable à Jésus, waouh, toute une promotion. « Aimeriez-vous vivre toujours dans un royaume avec un roi qui vous aime à la folie et qui veut votre bien? » Un jour, ça va être ça. Il vous aime déjà à la folie, Dieu. Mais un jour, vous allez être avec lui, vous allez goûter davantage à son amour. Je vais vous citer ici John MacArthur. Dans son commentaire sur 1 Corinthiens, il dit « La résurrection à venir est l'espérance et la motivation de l'Église et de tous les croyants. » C'est ça, notre espérance. Ce n'est pas « j'espère que », c'est une espérance qui est ferme. Quoi qu'il arrive à mon corps actuel, qu'il soit ou non en santé, beau ou ordinaire, jeune ou vieux, gâté ou torturé, parce qu'il y a des gens qui sont torturés, ce n'est pas mon corps, notre corps permanent, et nous ne devrions pas y être trop attachés. Donc, ce corps-là, peut-être qu'il ne fait pas notre affaire maintenant, parce qu'on est malade, on souffre, mais ce n'est pas permanent. Il continue. « Notre espérance et notre assurance bénie résident dans le fait que ce corps créé naturel sera un jour recréé spirituel. Et que nous n'ayons aucun aperçu de ce à quoi ce nouveau corps ressemblera, le fait de savoir que nous serons semblables à lui devrait suffire. » Semblable à Jésus, c'est beaucoup. On ne sait pas exactement qu'est-ce que ça va être, mais c'est très, très, très grand. Durant la pandémie, on a appris un nouveau mot, le mot présentiel. Au début, ça m'agaçait ce mot-là, en me disant, c'est pas un vrai mot, ça. Puis un jour, on va être en présentiel avec Jésus. Présentiel. Et j'irais plus loin, je dirais même, on va être présent dans le ciel. Hein? Présent dans le ciel avec Jésus. Vous l'avez poigné. Parce que c'est rare que je me force comme ça. Content que vous l'ayez apprécié. Mais vous allez le remarquer, présent dans le ciel avec Jésus, en présentiel. Et je viens de parler du nouveau corps, mais il va y avoir aussi un nouvel environnement. On va être dans un nouveau ciel et une nouvelle terre. Nous regardons ici dans ces pierres. L'apôtre Pierre, chapitre 2 Pierre, chapitre 3, nous lisons, verset 11. Puisque tout l'univers doit ainsi se désagréger, quelle vie saine, sainte, vous devez mener et combien devez-vous être attaché à Dieu? Puisque tout ça doit se détruire, être brisé par le feu, il ne faut pas trop s'attacher à ça. Verset 12. En attendant que vienne le jour de Dieu et en hâtant sa venue, ce jour-là, le ciel en feu se désagrégera, les astres embrasés fondront. Il ne fera pas chaud, hein? Et ça va arriver. Et devant tout ça, ça nous... Je ne veux pas faire peur au monde, là. Mais c'est dans la Bible. Je ne veux pas que les gens croient à Jésus à cause de ça, mais à cause du salut éternel qu'il leur donne, à cause de la valeur de sa personne. Verset 13. Mais nous attendons, comme Dieu l'a promis, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. Donc, nouveau ciel, nouvelle terre, il va y avoir la justice. Vous pouvez peut-être dire, mais c'est pas juste. C'est juste les chrétiens qui vont éviter ça. Mettons que vous ne l'êtes pas. Ouais, mais qu'est-ce que t'attends? Hein? C'est offert à tout le monde. Qu'est-ce que t'attends? C'est pas juste les chrétiens, c'est là, c'est écrit. Marqué, mais nous, quand Paul l'a écrit, il écrivait à des croyants. Nous, on l'a. Le non-croyant le lit. Hey, oups, allez, moi aussi, je veux être comme eux autres. Moi aussi, je veux être enlevé. Moi aussi, je veux pas que le feu me tombe sur la tête. Ou je veux pas, si je meurs avant, retrouver un enfer. Je ne dis pas que c'est pas juste. Vous avez le temps. Vous avez eu tout le temps. Nous lisons aussi dans Philippiens 3, 20. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Donc, notre cité permanente est dans les cieux. Et qu'est-ce qu'on a sur terre? C'est vraiment beau ce que Dieu a fait de la création. C'est merveilleux. La nouvelle terre, ça va être encore plus beau. Ça va être encore plus beau, mais ça va être... Le Seigneur peut avoir nouveaux yeux aussi. On va pouvoir se promener dans tout ça. Et qu'est-ce que ça change dans ma vie de tous les jours de savoir ça, que Jésus s'en vient, et que je vais avoir un nouveau corps, un nouveau ciel, une nouvelle terre? Mais ça change que notre vision complètement, et ça va nous faire grandir en Jésus, le fait d'avoir cette vision-là. Ici, nous avons les GPS, grandir, partager, servir. Donc, grandir en Jésus, oui, ça va être ça si on est conscient de ce qui s'en vient. Et je vais vous lire une citation de M. Dane Ortlund, c'est celui qui a écrit le livre « Doux et humble de cœur ». C'est un livre qui est fait après « De gloire en gloire » que je vous conseille fortement. Il dit « Notre croissance en Christ tire sa force également d'un sens aigu de son retour imminent. » Donc, si on sait que Jésus va revenir, puis c'est sûr, ça va nous amener à le rechercher puis à regarder à lui. Il est difficile de progresser dans la vie chrétienne si nous nous laissons bercer par le sentiment monotone que ce monde continuera simplement à tourner éternellement comme il le fait actuellement. Si on dit, tout est comme ça, ça ne changera pas, ça va rester le même, on ne grandira pas spirituellement, on va s'accrocher au monde. Alors que si on sait que Jésus revient et c'est imminent, on va avoir les yeux plus tournés vers lui. Il continue, mais si nous attendons à ce moment où le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, nous entretenons alors un sentiment d'imminence qui nous fait trépigner de joie à l'idée de ce qui viendra bientôt. Cette attitude nous pousse à aller de l'avant. Donc, ça nous donne de la joie, le fait de savoir que Jésus revient. Et ça nous fait grandir. Une autre chose que ça nous donne la victoire sur le péché. Monsieur Ortlund dit encore, « Lorsque les yeux de notre cœur sont redirigés vers Jésus de la Bible, dans toute sa glorieuse douceur et son admirable amour, le péché est sous-alimenté et commence à dépérir. Lorsqu'on a de la difficulté avec un péché, une tentation, il ne faut pas focusser dessus, il faut focusser sur Jésus. Jésus, aide-moi. Jésus, révèle-toi. Et quand on voit Jésus, son amour, sa beauté, ce qu'il est, qui on est pour lui, le péché devient gris. Comme sur votre ordinateur, des fois, vous savez, cliquer, ça ne marche pas parce que c'est gris, là, tu sais. Donc, vous ne pouvez pas le faire. Donc, le péché est sous-alimenté, il va dépérir. Et ça enlève l'attrait qu'on a pour les idoles ou les choses qui prennent la place de Dieu. On est dans le cadre de Libération 21. On parle de libération. Et j'ai réfléchi un petit peu, je me disais, oui, c'est important d'être libéré de la peur, des fardeaux, du péché. Mais il ne faut pas focusser sur la libération. Il faut focusser sur celui qui va nous libérer. Donc, la libération est comme un effet secondaire de notre relation avec Jésus. Plus Jésus est grand, plus Jésus est merveilleux, la libération va venir d'elle-même. Et comme je disais, il ne faut pas focusser sur le péché, mais s'accrocher à Jésus et le péché va perdre son emprise. Donc, la libération, c'est dans une personne. Je vous donne un exemple. Un célibataire qui cherche la compagnie, l'amour, la tendresse, il va la trouver dans quoi? Dans qui? Dans une personne. C'est une personne qui va combler ces besoins-là. Donc, la libération, nos fardeaux, tout ça, c'est dans une personne qu'on va la trouver, dans Jésus. Une autre chose qu'une vision claire de l'éternité va nous donner, c'est la paix et la patience dans l'adversité. Parce que si on sait que ceux qui sont morts en Jésus vont ressusciter, qu'on va les revoir, ça va nous consoler. Aussi, on va composer plus facilement avec les souffrances, les difficultés présentes, en sachant que c'est temporaire. Et je ne lirai pas au complet le verset, mais vous connaissez le verset dans 2 Corinthiens, où Paul dit que les légères afflictions du moment présent produisent pour nous un poids éternel de gloire. Paul disait légères afflictions, tu sais, il s'est fait habiter quelques fois, fouetter, légères afflictions pour lui. Mais ça produit un poids éternel de gloire. Ça me donne aussi la paix face à la mort. En Jésus, la victoire est assurée. Je vais vous parler de Marie-Ève encore, parce qu'il y a beaucoup de gens autour d'elle qui sont morts. C'est un peu drôle, hein? On parlait de ça l'autre jour. Et il y a une de ses amies qui a eu un cancer grave, qui est décédée. Et avant de décéder, son amie lui avait envoyé un cœur sur lequel il était écrit « Je suis déjà victorieuse ». Jésus qui est le vainqueur, il a vaincu la mort. C'est marqué en anglais, mais j'ai demandé qu'elle me l'envoie, elle me l'a envoyé. Donc, I am victorious. Je suis victorieuse. Il a déjà gagné la bataille. Et ça, elle a écrit ça. Elle n'était pas morte, là. Elle a écrit ça quand elle avait le cancer. Elle savait qu'elle allait mourir. Et elle a la victoire. On entend souvent. Quelqu'un qui est mort du cancer, il a perdu sa bataille contre le cancer. Oui, c'est sûr. Mais elle disait, je suis victorieuse. Parce que la bataille est déjà gagnée en Jésus. Si elle fait un avec lui, elle est assurée de la vie éternelle, assurée de sa présence. J'ai déjà la victoire. Et elle a encerclé, encadré le victorious. Une histoire, c'est un non-croyant qui disait, son ami était sur le bord de mourir. Il disait, pauvre ami, je te plains, tu vas quitter la terre des vivants. Et le chrétien a répondu, tu te trompes, je quitte la terre des mourants pour le pays des vivants. Il m'a bien répondu, je quitte la terre des mourants pour le pays des vivants. On peut même dire qu'on a de la joie face à la mort. C'est bizarre, hein? Parce qu'on a un peu peur de la façon qu'on va mourir, c'est sûr. On ne veut pas souffrir, on ne veut pas dégénérer, perdre notre mémoire, mais il y a une certaine joie dans le sens qu'on va voir Jésus. Voir Jésus. Autre chose que ma conception de l'éternité va changer, c'est que mes motivations vont être changées. Donc, je ne m'attacherai pas aux choses du monde, de ce siècle, mais les priorités vont changer. Il y a des choses qui vont devenir plus importantes pour moi qui ne sont pas nécessairement ce qu'il y était avant. Mes motivations vont être purifiées, je vais davantage faire des choses par amour, parce que la valeur des bonnes œuvres, ce n'est pas nécessairement ce qu'on fait, mais c'est qu'est-ce qui les motive, est-ce que ça a été fait par amour. Et l'ingrédient principal qui fait qu'une œuvre est appréciée de Dieu, c'est l'amour qui l'a motivé. Et une bonne compréhension du ciel et des nouveaux cieux, nouvelles terres qui s'en viennent, ce n'est pas un luxe, parce que c'est vraiment une nécessité. Et les gens qui ont fait le plus pour Jésus sur la terre, ce sont des gens qui avaient les yeux fixés vers le ciel. L'apôtre Paul. par exemple. Passons le jeune homme riche. Jésus lui a dit, oui, tu respectes les commandements, mais va, vends tous tes biens de nos pauvres et suis-moi. Mais le jeune homme riche, pourquoi il a refusé? Parce qu'il n'y avait pas une bonne conception de qu'est-ce qu'était le ciel. Pour lui, son trésor était sur la terre. Pour lui, c'était un tien vaut mieux que un milliard de tu l'auras. Il avait l'argent, tout ça, il voulait en profiter. Donc, c'était plus réel, plus immédiat, plus concret. Mais il allait finir par perdre tout ce qu'il avait sur la terre. Et s'il n'a pas donné sa vie à Jésus, il a perdu son âme aussi. On ne connaît pas ce qui s'est passé à la fin de sa vie. Donc, aussi, ça va nous aider à porter du fruit, le fait d'être, avoir une bonne vision de notre espérance future. J'ai parlé de grandir. Donc, si on est conscient du retour de Jésus davantage, on va partager, on va témoigner davantage, et on va servir aussi Jésus. Comme je disais, les chrétiens qui ont fait le plus pour Dieu, c'est ceux qui avaient les yeux fixés vers le ciel, ils ont eu un service efficace pour Jésus. Aussi, un autre ingrédient c'est qu'on va être joyeux. L'apôtre Paul disait, réjouissez-vous en espérance. Donc, c'est pas une espérance floue, c'est l'espérance réelle que Jésus va revenir. Réjouissez-vous. Et il y a un autre verset que je vais vous faire lire. En Romains 15, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie. Donc, la joie ici découle de l'espérance qu'on a en Jésus de son retour et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance encore par la puissance du Saint-Esprit. Donc, c'est le Saint-Esprit qui produit en nous, qui nous révèle Jésus, qui nous convainc de son retour, la parole de Dieu aussi, et ça nous donne la joie. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus important que notre destinée éternelle avec Jésus? Rien de plus important. Le Dieu qui nous a créés, qui a créé toutes choses, est tout puissant, Dieu fidèle, il a assuré le moyen qu'on soit sauvé. Il a pourvu. Si je le reconnais comme mon sauveur, je reconnais mes péchés, je reconnais que j'ai besoin d'être sauvé, je vais être toujours avec lui. Si je refuse son salut, malheureusement, je suis perdu pour l'éternité. Et je peux dire, non, je n'ai pas refusé Jésus, mais je n'ai rien fait. Le fait de ne pas l'accepter, c'est le refuser. Okay? On a un choix à faire. Soit qu'on accepte Jésus, si on ne fait rien, ça veut dire tu le refuses. Okay? Donc, avez-vous fait ce choix, le bon choix? Si Jésus est notre sauveur, on est en sécurité parce qu'on sait à qui on a affaire. Il est digne et il respecte toujours ses promesses. Totalement digne de confiance, et en plus, il y a la puissance de ses ambitions, la puissance de faire respecter ses promesses. Et pour Dieu, c'est pas compliqué, c'est déjà réalisé. Dieu a une vision de ce qui s'en vient, nouveau ciel, nouvelle terre, notre mort, l'enlèvement de Jésus. Dieu, là, il voit tout ça, son plan est là. Et pour lui, c'est pas compliqué. Il n'a pas peur de se tromper. Il a le contrôle total. Son plan va s'accomplir parce qu'il est souverain et tout puissant. Aucun danger de passer à côté du plan de Dieu. C'est long. Et sur la base du plan de Dieu, on peut être convaincu que tout va bien aller parce que nous sommes déjà victorieux parce que Jésus a remporté la victoire. Et on peut être heureux sur cette terre malgré les épreuves, même la mort, à cause des promesses de Jésus, parce qu'on a déjà la victoire. Et la victoire a été acquise à la croix. Et notre avenir est connecté à celui de Jésus. L'apôtre Paul emploie souvent l'expression « en lui, en lui ». Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, si Christ vit en nous, le fait qu'il soit ressuscité, c'est sûr qu'on va ressusciter nous autres aussi. Il ne peut pas nous laisser dans la tombe. S'il revient avant notre mort, il va nous transformer. Donc, je vous invite à mettre votre confiance en Jésus sans réserve, parce que lui seul peut vous sauver. Et je vous invite à regarder vers le ciel, regarder Jésus, et la libération va devenir un effet secondaire de votre relation particulière avec Jésus. On va chanter tout à l'heure, « Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. » C'est réel. Je vous invite à écouter les paroles et à chanter ensemble. Si vous voulez, on va prier en terminant. Notre grand Dieu, tout ce qu'on voit actuellement sur cette terre, ça va être remplacé par quelque chose de neuf, après avoir été détruit. Seigneur, tu vas repartir à neuf. Mais Seigneur, on veut être tremblant devant toi d'une sainte crainte, en sachant que tu es tout-puissant, que tu vas réaliser ça, en sachant qu'on est dans ton plan, Seigneur, et que tu nous as destiné à la vie éternelle. Je te prie pour toute personne ici qui ne te connaîtrait pas encore comme sauveur personnel. Je te prie de parler à ton cœur, de lui montrer, révéler par ton esprit les péchés, les manquements qui la séparent de toi, et lui montrer surtout ton salut, ton amour et le fait que tu es mort pour cette personne-là, que tu as porté son châtiment de son péché. Et merci Seigneur, parce qu'on peut ressusciter avec toi comme tu nous l'as promis. Notre Dieu, comme tu nous l'as enseigné, nous prions que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur cette terre comme elle est au ciel. Seigneur, on sait qu'un jour on va être présent dans le ciel avec toi. Que ce sera merveilleux. Et Seigneur, on te prie de nous révéler par ton esprit et par ta parole de plus en plus qu'est-ce que ce sera d'être avec toi pour toujours et que cela, ça nous change, Seigneur, ça nous transforme afin qu'on puisse grandir, partager, servir et accomplir ta volonté jusqu'à ton retour. Amen.